Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En RDC, on estime à environ 3% des Congolais souffrant de la drépanocytose, couramment appelée anémie SS. D'après les experts, cette maladie nécessite régulièrement des soins appropriés. L'anémie SS peut être évitée car c'est une maladie génétique et héréditaire. Comment donc soigner cette maladie et comment la prévenir? Docteur Kizunda, bonjour, nous en parlons avec vous.
Bonjour madame.
Alors, de manière très brève, qu'est-ce que l'anémie SS?
Eh bien, comme vous l'avez dit, l'anémie SS ou la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui concerne l'hémoglobine. C'est l'hémoglobine, en fait, qui est malade. L'individu qui est atteint de la drépanocytose produit ou fabrique une hémoglobine de mauvaise qualité. Et cette maladie est due tout simplement au fait que dans l'hémoglobine, il y a un remplacement d'un acide aminé par un autre qui n'a pas les mêmes propriétés physico-biochimiques. Et cela entraîne toutes les manifestations que nous avons dans la drépanocytose.
Alors dites-moi docteur, qu'est-ce qui peut provoquer l'anémie SS? Vous avez dit que c'est l'hémoglobine qui est malade, mais qu'est-ce qui peut provoquer cette maladie?
Non, mais elle est génétique.
Ça veut dire
génétique héréditaire, transmission des parents aux enfants. Donc c'est une maladie qui n'est pas causée par un moustique, qui n'est pas causée par une bactérie. C'est une maladie qui est transmise des parents aux enfants. C'est une maladie génétique. Et cette maladie génétique est le fait que deux parents qui portent le trait S, lorsqu'ils sont ensemble, et nous savons tous que l'enfant, c'est une union entre un père et une mère, et que l'enfant reçoit 50% du patrimoine génétique du papa et 50 autres de la mère. Et dans les cas de la drépanocytose, donc si le papa donne une hémoglobine S et la maman donne aussi une moitié S, l'enfant qui naît est SS. Donc c'est une transmission génétique héréditaire.
Voilà, nous retenons que la drépanocytose ou l'anémie SS, c'est une maladie transmise des parents à enfants.
Exact.
Et quels sont les signes d'alerte de l'anémie SS, docteur?
Les premières manifestations de l'anémie SS apparaissent autour de 6 mois. Mais cela peut arriver un peu plus tôt ici. Et parmi les premières manifestations, nous avons ce que nous appelons le hand foot syndrome. Donc, c'est une tuméfaction des mains et des pieds. Cela concerne les orteils et les doigts, la paume de main, le dos de pied. Ça peut survenir sur un seul doigt, sur un seul orteil, sur le dos de la main, etc. Ça, ce sont les premières manifestations qui apparaissent. Et vous avez aussi, quand même, si vous avez un œil un peu exercé, vous avez une certaine anémie, une pâleur qui survient. Et cela arrive autour de 6 mois, comme je disais. Pourquoi? Parce que l'enfant est protégé les 6 premiers mois par une hémoglobine que nous appelons l'hémoglobine fœtale. L'hémoglobine fœtale, en fait, vous voyez le mot fœtale, c'est du fœtus. Donc l'hémoglobine qui vient de la grossesse déjà, le dernier trimestre, l'enfant a cette hémoglobine F qui va le protéger qui va le protéger jusqu'à un certain âge. Et après, cette hémoglobine est remplacée par l'hémoglobine normale adulte, si c'est un enfant qui est normal, AA, ou par l'hémoglobine S. C'est alors que commencent les premières manifestations de la maladie.
Oui, docteur, mais qui doivent observer ces signes? Les parents, l'hôpital, l'entourage, c'est qui doit observer?
En fait, c'est tout le monde qui doit observer. C'est toute la communauté qui devra observer. Parce que l'hôpital, on va à l'hôpital lorsque les parents amènent l'enfant à l'hôpital. Mais à la maison, déjà, on doit être sensibilisé si dans la famille, on a déjà des cas pareils. Et puis aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un dépistage néonatal. Étant donné la prévalence qui est quand même importante de cette maladie dans nos régions. Et donc, on fait déjà un diagnostic prénatal ou natal,
à
la naissance, néonatal. Bon, il y en a qui peuvent le faire.
Et ça se fait où, dans tous les hôpitaux?
Malheureusement, pas encore. Cela se fait, à ma connaissance, je sais que le centre hospitalier Moncollet le réalise régulièrement. Et que par ce centre, il y a d'autres aussi, centres pilotes, qui font cet examen.
Oui, docteur, nous avons appris que ceux qui souffrent de l'anémie SS font des crises à répétition. Comment peut-on éviter ces crises?
La drépanocytose est caractérisée par trois types de manifestations. Nous avons les premières manifestations qui sont de l'ordre d'anémie. On parle de l'anémie SS, anémie. C'est des crises hématologiques. Et là-bas, nous avons hématologie qui concerne
le sang. Voilà.
Diminution de sang. Et cette diminution de sang peut concerner la physiopathologie, en fait. Ça peut arriver de plusieurs manières. Soit ce qu'on appelle une crise hyperhémolytique, soit une aplasie médulaire, c'est un peu plus compliqué. L'aplasie, c'est-à-dire médulaire, c'est le lieu de production de l'hémoglobine ou de tout le sang et colonisé par un virus qu'on appelle parvovirus qui empêche le sang d'être produit correctement. Soit encore par une séquestration, le sang est séquestré, les globules rouges, séquestration splénique à la rate va engorger tous les globules rouges, ça peut entraîner une anémie, rarement une séquestration hépatique du foie. Ça, ce sont les premières manifestations hématologiques. Nous avons les secondes qui sont les crises douloureuses, que l'on connaît généralement aussi. Ce sont des crises vaso-occlusives.
Là, et ça commence déjà dès l'âge de 6 mois quand on découvre la maladie?
Déjà dès l'âge de 6 mois, ça peut commencer pour certains, parce que nous avons plusieurs formes aussi de la drépanocytose. Il ne faut pas oublier, bon, on n'entre pas dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de la drépanocytose. Mais bref, retenons qu'autour de 6 mois commencent ces manifestations. Et puis vous avez un autre signe qui n'est pas moins important, c'est la susceptibilité de ces enfants aux infections. Donc ça aussi, c'est un signe qui peut attirer les parents. Un enfant qui est tout le temps malade, qui fait tout le temps soit des infections orelles, bronchopulmonaires, urinaires, et même des sepsis, méningites, etc. Donc il faut que cela attire l'attention des parents, du personnel soignant, pour voir si c'est un enfant qui n'est pas drépanocytaire. Voilà les manifestations que nous avons. Alors, pour éviter les crises vaso-occlusives de douloureuses, parce qu'il n'y a pas que le crise qu'il faut éviter, il faut éviter aussi d'autres, les infections et les crises d'anémie. Les crises vaso-occlusives, il faut voir quels sont les facteurs qui les provoquent. Vous avez parfois les infections, peuvent entraîner des crises vaso-occlusives, donc il faut essayer d'éviter les infections. Vous avez le paludisme.
Mais justement, comment éviter ces infections?
Voilà, pour éviter les infections, vous avez l'hygiène d'abord.
Tout un mode de vie
tout
autour
un
des
de vie.
Enfants anémiques.
Exact. Et puis vous avez la vaccination, hein, ce qu'on appelle une vaccination spécifique. Bon, spécifique parce que ça concerne un peu les personnes qui sont vulnérables. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que cette vaccination spécifique, heureusement, dans le programme élargi de la vaccination, concerne tous les enfants de 0 à 5 ans. On leur donne ces vaccins, donc vous avez, parce que les drépanocytaires ou les anémiques SS sont sensibles, très sensibles à certains microbes, hein, ils ne savent pas se défendre face à ces microbes, qui est le streptococcus pneumoniae, qui provoque la pneumonie. Vous avez les salmonelles, hein, et vous avez le microbe qui donne aussi la méningite, la méningitis. Donc tous ces microbes-là peuvent être contrés par la vaccination.
Donc, alors, docteur, nous rappelons à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours que nous parlons de l'anémie SS, cause, remède et moyens de prévention. Et voilà, et si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent nous appeler au 081 890 63 94, mais ils peuvent également nous envoyer un SMS au 081 711 50 01.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Bien, voilà, nous avons Ismaël Mumpoyo, il nous appelle de Lubumbashi. Ismaël, bonjour, vous avez la parole.
Bonjour Danounou, bonjour à l'invité et aux auditeurs de la radio.
Bonjour.
Oui, ma première question est de savoir pourquoi les examens prénuptiaux est-il nécessaire de la spécificité aussi d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. La troisième préoccupation est de savoir pourquoi l'administration, pourquoi l'effet est inadministrable juste pendant la cause. Et l'anémie SS est-elle la cause est-elle intrinsèque ou extrinsèque? D'un est ainsi, quelle peut être la précaution qu'on peut prendre juste la crise est déjà installée?
Merci à vous, Ismaël. Et nous rappelons que vous nous avez appelé depuis Lubumbashi. Docteur, nous avons aussi, avant de répondre à Ismaël, nous avons Neville Mukuminga qui nous appelle de Kananga. Neville, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole.
Oui, je voudrais d'abord réagir par rapport au sujet. C'est un sujet très délicat parce que beaucoup de gens sont en train de faire des mariages sans se dépister avant. Parce qu'il faut commencer par se dépister, savoir justement de quel groupe sanguin on est, pour éviter éventuellement des problèmes, des complications SS. C'est d'abord ça. Et puis, il faut aussi décrier qu'il y a manque de sensibilisation dans ce sens. Mais je voudrais plutôt poser une question. Lorsqu'on trouve qu'un couple s'est déjà fait, et puis il y a des complications SS, quels conseils on peut donner à ces couples? Parce qu'on a vu bien des choses. Eh bien, des cas, les gens ils font des couples et les couples se défont pour des raisons pareilles. Alors, comment éviter ça d'un côté et de l'autre? Quel conseil peut-on donner à ces gens de couples?
Merci à vous, Neville. Docteur, nous avons aussi Mutombo qui nous a rejoint. Il appelle aussi de Lubumbashi. Trésor Mutombo, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste. Oui, bonjour, docteur.
Bonjour.
On vous écoute.
Mes préoccupations sont celles-ci. Est-ce qu'un anémique peut-il se retrouver en érection? C'est la première. Puis la deuxième, quel est l'examen spécifique pour détecter cette pathologie?
Merci Trésor Mutombo. Docteur, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour l'intérêt qu'il nous accorde par rapport à notre sujet. La première question de Lubumbashi, syndrome de Mendelssohn, je crois que nous ne parlons pas de cela. Nous sommes bien dans la trépanocytose.
Mais il a parlé aussi des examens prénuptiaux, l'importance des examens prénuptiaux.
Oui, les examens prénuptiaux sont très importants. D'ailleurs, de plus en plus, moi, je suis convaincu plutôt qu'il ne faut pas parler des examens prénuptiaux par rapport à la trépanocytose. Il faut que la carte, comme on fait les... Donc, c'est faire dépister bien avant. Et ça doit faire partie de l'identité de l'individu. Il ne faut pas attendre. Ben, examen prénuptiaux. OK? Voilà. Vous allez vous marier.
Vous êtes déjà amoureux. Et voilà. Les résultats sont là. Vous
oui.
êtes
vous
à
avez,
S, votre mari.
Vous avez déjà fait les invitations. Vous faites quoi?
Marche arrière.
Vous êtes capable? Voilà. Donc, c'est aberrant. Il faut déjà le savoir avant.
L'idéal, c'est de le faire à quel âge?
Non, déjà. Donc, l'idéal, c'est de le faire déjà quand on est enfant. Et puis, bon, c'est fini, on sait qui on est. Et puis, on grandit en tant que tel. Et puis, si jamais vous êtes amoureux d'une personne, eh ben, il faut se connaître. Donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre parce que je ne sais pas combien de personnes sont capables de rompre les fiançailles, surtout les femmes, dans nos milieux.
Si elles sont déjà engagées, en plein dedans, amoureuses.
Oui, c'est pas facile. Hein? Et puis, il faut savoir aussi, pour faire un enfant, il ne faut pas seulement aller à la commune. Hein? Il ne faut pas seulement aller à l'église. Les enfants peuvent se faire partout, excusez-moi. Donc, si on est sensibilisé aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui ont des enfants. Alors, donc, il faut être sensibilisé, même si on n'est pas marié, mais savoir que moi, je suis AS. Que
mais docteur, en parlant de ces examens, peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent, mais qui ne savent pas où aller les faire.
Ben, les examens peuvent se faire dans n'importe quel hôpital. Les rudimentaires, en fait. Les premiers, c'est ce qu'on appelle le test d'Emel. Ça, c'est un test vraiment rudimentaire qui permet quand même d'orienter. Hein, c'est une goutte de sang entre l'âme et la mère qu'on a lutté pendant 24 heures et on fait une lecture 24 heures après et on va voir la forme de globules rouges. Si les globules rouges sont falciformés, on peut se dire que voilà, là nous avons hein, transporteur de la tare, enfin, pas de la tare, du trait S, ben, si tous les globules rouges sont normaux, on peut se dire que là, on a affaire probablement. Mm-hmm. Parce qu'il faut faire d'autres examens, c'est vrai, plus spécifiques, comme l'a dit le troisième auditeur. Mm-hmm. Hein, pour essayer. Vous savez, la science avance, on essaie plus de fignoler les techniques. Ainsi donc, il y a l'électrophorèse d'hémoglobine, c'est
qui confirme.
Hein, mais il y a plusieurs types d'électrophorèse d'hémoglobine, on n'entre pas dans les détails. Il y a des techniques plus avancées. Il y a aussi aujourd'hui le PCR. Hein, donc on essaie de décoder l'ADN. On prend l'ADN, je crois, à l'INRB, je pense, si j'ai bonne information.
Mais est-ce que c'est des examens qui sont à la portée de toutes les bourses docteurs?
Malheureusement.
C'est bien
pas.
Beau d'appeler les gens à faire ces examens, mais.
Malheureusement, ce n'est pas à la portée de tout le monde parce qu'un examen d'électrophorèse te coûte autour de 10 $. Hein, ben, quand des techniques sont plus spécifiques, c'est peut-être 30 $. Hein, alors, ben, les tests d'email, celui-là, il ne coûte pas très cher.
Oui, docteur, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Il y a un auditeur, le troisième auditeur, qui a demandé si une personne anémique peut se retrouver en érection.
Pourquoi pas? En érection, un homme, on s'en va. Cela, il peut avoir une érection. Mais il faut dire que nous avons des complications aussi chez les trépanocytaires mâles, ce que nous appelons un priapisme. Le priapisme, c'est une érection douloureuse, permanente, en dehors de toute excitation sexuelle. Et cette érection-là, si elle n'est pas soignée, peut entraîner...
La stérilité.
Non, pas la stérilité, peut entraîner le manque de virilité, quoi. Plus tard, hein, vous pouvez ne plus avoir des érections. Donc, parce que ça a traîné, eh bien, il y a eu des dégâts au niveau des corps caverneux, au niveau de l'organe du mâle. Eh bien, plus tard, ça ne va pas. Hein? Alors, pour les couples mariés à S, moi, je crois que quand ils sont mariés, déjà, il faut assumer. Il faut assumer, c'est un problème délicat. Il faut assumer, il y a un dialogue qu'il faut engager. Faut-il divorcer? Faut-il ne pas divorcer? Mais si vous avez un enfant SS déjà, qui est capable de supporter cet enfant? C'est la femme qui va rentrer chez ses parents, ou je sais pas moi, qui va se remarier avec un autre monsieur, ou c'est l'homme qui amène l'enfant, qui va retrouver une autre femme? Cette femme sera capable de prendre en charge cet enfant? Donc c'est quand même un peu délicat. Voilà pourquoi on dit de réfléchir. Hein, voilà justement le sens de ce genre d'émission, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on ne s'engage pas à la légère, parce qu'il faut toujours voir les enfants, hein, parce que les parents ne voient que eux-mêmes. Hein, la même chose si vous avez un couple VIH, est-ce que vous allez accepter, est-ce que vous n'allez pas accepter? Donc c'est quand même des choses assez délicates sous lesquelles il faut bien réfléchir. Hein, c'est toute une vie, pas seulement la vôtre, mais celle aussi de la progéniture.
Voilà, nous parlons de l'anémie SS. Vous pouvez participer à notre émission en nous appelant au 081 890 63 94 ou nous écrire un SMS au 081 711 50 01.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Alors, docteur Kizunda Pouloulou, nous rappelons que nous parlons de la drépanocytose, couramment appelée anémie SS. Avant de passer la parole à Jerry Mido, qui nous appelle de Bandundu, docteur, il y a un auditeur qui a parlé du groupe sanguin.
Oui, alors il faut faire très attention. Le groupe sanguin, ce n'est pas la même chose que l'électrophorèse d'hémoglobine. Le groupe sanguin sert à identifier le globule rouge, tout simplement. Et cela est important dans le cadre des transfusions sanguines.
Et ça n'a rien à voir avec l'anémie SS.
Ça n'a rien à voir avec l'anémie SS.
Donc vous pouvez être groupe O positif, hein, mais vous êtes anémique.
Exact.
Voilà, nous donnons la parole à Jerry Mido qui nous appelle de Bandunduville. Jerry Mido, bonjour.
Bonjour à l'invité. Je fais d'abord un coucou à toute l'équipe de l'Ocapi Service. Bon, j'ai trois questions aussi à poser à l'invité. Bon, la première, celle-ci. Est-ce que quelqu'un qui souffre de l'anémie SS, on peut lui transférer quelle sorte de sang ou quelle sorte de sang on peut lui transférer? Bon, la deuxième question, je ne sais pas. C'est lui, est-ce que l'invité peut me donner la durée de vie d'un trépanocytaire, que ce soit un homme ou une femme? Donc, c'est simplement ça.
Voilà, docteur Jérémy Do, qui nous appelle de Bandundu, demandait si quelqu'un qui souffre de l'anémie SS peut être transfusé de quel groupe de sang. Et puis la deuxième question, quelle durée de vie pour une personne anémique SS?
Naturellement, l'anémie SS nécessite des transfusions. C'est clair que quand on est anémique SS à un moment donné, le taux de l'hémoglobine baisse, il faut être transfusé. De quel groupe sanguin faut-il être transfusé? Étant donné le fait qu'on le transfuse assez souvent, il est recommandé de faire des tests de sang, de donner du sang phénotypé, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au sous-groupe. On va chercher du sang jusqu'au sous-groupe pour
et éviter... Et c'est quoi les sous-groupes, docteur?
Ben, nous avons le groupe AB0. Uh-huh. Mais en dehors de sous-groupe, du groupe AB0, il y a encore d'autres sous-groupes. Le groupe Kelly, hein, par exemple, nous parlons même de quand nous parlons des rhésus, c'est un sous-groupe aussi, ok. Et il faut aller jusqu'au niveau de sous-groupes là, pour que l'identité entre le sang qu'on donne et le à celui à qui on le donne, qu'il n'y ait pas un conflit immunologique, parce que le fait de transfuser du sang tout simplement selon le groupe AB0 peut entraîner un conflit immunologique. C'est comme ça qu'on essaye d'aller un peu plus en profondeur pour phénotyper les sangs, comme on dit.
Mais en dehors de la transfusion, il y a aussi la greffe.
Ben, la greffe médulaire, c'est le traitement curatif. Ça, c'est un traitement qui ne se fait pas chez nous. C'est un traitement qui coûte très cher. En Europe, autour de 150 000 dollars. En Afrique du Sud, autour de 30 000 dollars. Je crois en Inde, c'est pareil, 30 000 dollars. Mais ce n'est pas un traitement de masse. Ce n'est pas un traitement où vous mettez 1000 enfants, vous commencez à les greffer. Non. Donc, il y a des indications ce traitement-là. Voilà.
Oui, docteur, nous avons appris, selon le commun des mortels, on ne sait pas si c'est vrai, on va le vérifier avec vous, qu'une personne anémique AS peut faire une migration et devenir SS. Est-ce que c'est vrai?
Ben,
c'est un auditeur qui nous a fait un SMS.
Je crois que c'est une utopie. C'est une utopie. Génétiquement, si on est SS, on reste SS. Et là, je voudrais dire aux auditeurs, méfiez-vous. Alors méfiez-vous de tous les charlatans qui disent qu'ils peuvent donner une potion, ok, et que l'enfant ou le sujet qui était SS devient AA ou AS. Il faut s'en méfier. Je crois qu'une telle personne, s'il découvre ce produit, les Américains vont nous l'arracher. Et ce sera certainement un prix Nobel.
Docteur, alors vous avez parlé de la transfusion, les personnes anémiques se font transfuser à tout moment. Est-ce que on peut transfuser une personne combien de fois le mois, une personne anémique qui souffre de l'anémie SS?
Mais ça dépend de l'évolution de la maladie. Si il ne fait pas beaucoup de crises de sang, il ne sera pas transfusé. Il peut même faire une année sans être transfusé s'il n'y a pas d'infection. Donc il y a un taux en deçà duquel nous transfusons. Généralement, nous nous fixons un taux de 6 grammes par décilitre. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voyons le taux de base de l'hémoglobine. Un drépanocytaire qui a un taux d'hémoglobine généralement autour de 8 grammes ou de 9 grammes et que brusquement, il passe de 9 à 7 et qu'il ne supporte pas, il ne tolère pas, il y a des signes d'intolérance. C'est-à-dire qu'il a des palpitations, qu'il a une tachycardie, qu'il y a des sueurs, agitation, vous transfusez. Et puis, il y a d'autres indications de la transfusion. Dans des cas de crises rebelles, de douleurs qui ne cessent pas, vous pouvez transfuser.
Mais pour ceux-là qui ne sont pas transfusés, parce qu'on sait qu'il y a des personnes anémiques SS qui prennent des médicaments tous les jours.
Oui, Oui, ils prennent des médicaments tous les jours. Ils vont prendre, c'est dans le cadre de la prévention des crises, dans le cadre de la prévention d'anémie, dans le cadre de prévention de désinfection, ils prennent des médicaments. Hein, on donne l'acide folique, par exemple. Hein, ça, c'est pour permettre à ce que la moelle qui est hyper excitée puisse travailler calmement, enfin, si on peut le dire, quoi.
Oui, docteur, on va lire aussi rapidement deux SMS qui nous viennent de... Il y a un qui vient de Goma. Je suis Rodriguez Kachwa et je vis à Goma, étudiant en médecine. Quel est le mécanisme qui fait que les personnes vivant, les personnes souffrant de l'anémie SS soient très résistantes à la malaria? Et puis, il y a Monsieur Mombo qui nous écrit, y a-t-il d'inconvénients à faire des rapports sexuels pour les personnes drépanocytaires?
Pour la malaria, très résistant, ça c'est ce qu'on croyait. Hein? C'est ce qu'on croyait, mais je crois que d'ailleurs, le paludisme est l'une des causes aussi des crises vaso-occlusives chez les drépanocytaires et même de crises hyperhémolytiques. En fait, c'est quoi? Ce n'est pas une résistance. En fait, le globule rouge est parasité par le trophozoïde. C'est comme un harakiri, le trophozoïde qui va pénétrer dans un globule rouge de mauvaise qualité ou l'hémoglobine est de mauvaise qualité. Donc, il ne saura pas se nourrir de cette hémoglobine et il va entraîner une hémolyse. En fait, il va mourir. Le trophon et le globule rouge. En fait, ce qui arrive, c'est quoi? C'est l'anémie qui est exacerbée. Donc, il n'y a pas une résistance. Deuxièmement, on parle de la résistance chez du paludisme de forme grave, chez les AS.
Chez les AS, hein? Ils ne souffrent pas de la malaria ou ils souffrent très rarement de la malaria.
Dans les formes graves.
Dans les formes graves, oui,
voilà.
Bien sûr.
Voilà, donc, en fait, c'est ça. Mais il n'y a pas de résistance de la drépanocytose vis-à-vis du paludisme. Ben, on pense que dans la mutation, dans le temps, l'hémoglobine s'est adaptée pour changer de forme afin de devenir résistant à la malaria. C'est comme ça que la ceinture cyclanémique est identique à la ceinture du paludisme.
Oui, docteur.
Et il peut faire des relations sexuelles. Il n'y a pas de problème. Mais il doit être marié. Marié.
Et quand on n'est pas marié?
Bon, quand on n'est pas marié, il ne faut pas faire des relations sexuelles.
Docteur, nous avons trois derniers auditeurs que nous allons prendre. Il y a Rachel Ndjibou qui nous appelle de Isiro. Rachel, bonjour.
C'est Rachel Ndjibou.
Oui, Rachel Ndjibou. On vous écoute.
Oui, je m'adresse au docteur. Au début, je disais que l'anémie SS, c'est une maladie transmissible de parents aux enfants. Mais là, je voulais savoir aussi pourquoi, depuis tout ce temps, on ne cherchait pas comment protéger les enfants pour que les enfants naissent pas pour ça, avoir cette maladie-là. C'était ça.
Alors, docteur Rachel Ndjibou demandait pourquoi, comment ça se fait qu'il y a des enfants qui naissent. Elle a compris que l'anémie SS est une maladie, comme vous l'avez dit, qui était héréditaire, mais elle ne peut pas comprendre comment il y a certains enfants qui naissent ou certains parents qui ne savent pas toujours que c'est de l'hérédité. Et il semble dans certaines familles des enfants qui sont anémiques sans pour autant que les parents ne soient anémiques SS. AS.
Ben, c'est pas vrai. Ça ne sera pas possible si cet enfant vient de ses parents. Hein, à moins que, bon, on ne va pas faire de sous-entendus, mais un enfant est issu de l'union entre un père et une mère. Et si cet enfant est né vraiment de ses parents et que les parents sont porteurs de la TARS, c'est normal que l'enfant soit SS. Mais attention, je voulais dire ceci, c'est pas parce que vous êtes AS tous les deux que tous les enfants que vous aurez seront des anémiques. On peut avoir des AA, on peut avoir des AS et on peut avoir des SS. Voilà.
Donc tous les enfants ne seront pas SS si vous êtes AS.
Non.
Mais c'est des mariages à déconseiller.
Voilà.
Voilà, nous avons Mireille Chilemba qui nous appelle de Kinshasa. Mireille, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Mireille.
Oui, je voulais poser à l'invité quelques questions, donc trois questions. Mm-hmm. Je voulais savoir, il a parlé des formes d'anémie, alors je voulais qu'il les évoque ainsi que leurs expressions cliniques. Ensuite, je voulais savoir, pour un couple AS, c'est vrai de dire que tous les enfants ne seront pas SS, mais je voulais savoir pour l'expression des enfants SS, quelle est la probabilité de leur expression pour un couple AS? Et enfin, troisièmement, je voulais savoir, est-ce que les personnes hétérozygotes AH peuvent aussi faire des crises comme le font les drépanocytaires? Merci.
Merci à vous, Mireille. Avant de répondre à Mireille, docteur, nous avons Adrienne aussi qui est en ligne. Adrienne, bonjour.
Bonjour, maman Ngoï. Bonjour, docteur Kizunga.
Bonjour.
Moi, j'aimerais savoir, parce que j'ai déjà remarqué bon nombre de personnes qui ont cette maladie mère souvent. Alors, ma première question est que, docteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'une personne qui souffre de l'anémie SS puisse au moins durer sur cette terre? Et ma deuxième question est que si Dieu voudra qu'une personne qui souffre de l'anémie SS puisse aussi grandir, atteindre même 20 ou 22 ans, que cette personne aussi décide de se marier, est-ce possible que la personne puisse aussi avoir d'enfants? Merci beaucoup.
Merci à vous, Adrienne, docteur.
Merci beaucoup. Mireille, aujourd'hui nous parlons des syndromes drépanocytaires majeurs. Et selon les génotypes, vous avez l'homozygosie SS, que nous disons drépanocytose généralement chez nous. Et à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle des formes des hétérozygotes composites, qui sont aussi mis dans le groupe des syndromes drépanocytaires majeurs. Vous avez, par exemple, dans les thalassémies, les S-bêta, zéro thalassémie. Vous avez aussi les SC. Vous avez aussi les S-bêta, thalassémie, plus positif thalassémie. Vous avez même les SO.
Docteur, c'est trop scientifique, tout ce que vous dites là. Est-ce qu'il y a moyen de parler un langage qui sera très bien compris par...
En fait, c'est quoi? Cela veut dire que vous avez la drépanocytose, l'anémie SS, disons que l'anémie SS généralement. À côté de l'anémie SS, nous avons dit que l'anémie SS était un défaut de fabrication, dans la qualité.
Une maladie de sang.
Dans la qualité de l'hémoglobine. À côté de la qualité de l'hémoglobine, il y a d'autres maladies où vous avez un défaut de production, de la quantité de l'hémoglobine. Eh bien, vous aviez des variations. Ils peuvent se combiner. Donc, à la fois, vous avez un problème de qualité et de quantité. Vous avez aussi un problème, parfois, de, au lieu que ce soit seulement, parce que scientifique, malheureusement, parce que c'est une question scientifique, l'acide glutamique qui est remplacé par la valine. Vous avez d'autres acides aminés qui peuvent être remplacés aussi, hein, dans les cas de l'hémoglobine SC, par exemple. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, vous avez tout ça. Alors, quand nous parlons de bêta, alpha, bêta, c'est parce que la chaîne de l'hémoglobine, encore une fois c'est scientifique, excusez-moi, il y a deux chaînes alpha et deux chaînes bêta. Enfin, c'est plus compliqué, peut-être qu'il est en médecine.
Probablement.
Voilà.
Oui, alors docteur, il y a la deuxième dame qui a demandé quelle est la durée de vie, encore une fois, hein, d'une personne vivant, une personne anémie SS. Et est-ce qu'une personne anémie SS peut aller au-delà de 22 ans? C'est ce qu'elle a demandé.
Bien, quand on me pose cette question, je me dis toujours, quelle est la durée de vie d'un citoyen congolais moyen? 40 ans. En principe, selon les études, je crois.
Mais les personnes anémiques SS
meurent. Donc, cela ne veut pas dire que vous ne trouverez pas des Congolais de 70 ans, de 80 ans, hein, et de 100 ans. C'est une moyenne qu'on fait entre ceux qui meurent plus tôt et donc on prend...
Ceux qui vivent longtemps.
Voilà. On fait la moyenne. Alors, les drépanocytaires, aux États-Unis, c'est autour de 40 ans. Aux États-Unis. Donc, chez nous, on doit être autour de 20 ans. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des drépanocytaires de 50 ans, de 60 ans. Nous n'avons pas de pères et de mères de famille. Ça existe. Nous avons des pères et de mères de famille drépanocytaires. Nous avons même des médecins drépanocytaires. Nous avons même des journalistes drépanocytaires. Voilà.
Alors docteur, on va conclure avec vous. Comment donc prévenir cette maladie grave, hein, une maladie génétique et héréditaire?
C'est clair. Quel est le mode de transmission? La prévention part du mode de transmission. Si c'est le mode de transmission est génétique, c'est-à-dire des parents aux enfants, il faut faire des conseils génétiques. Déconseiller les mariages entre couples qui portent le trait S. Donc, se faire dépister. Savoir quelle est son identité électrophorétique, si je peux dire, et de quelle électrophorèse de l'hémoglobine on est. Et dans ce cas-là, avoir le courage de ne pas s'amouracher d'une partenaire ou d'un partenaire ayant la même identité que vous.
Bien, merci à vous, docteur Kizunda Pouloulou. Je rappelle que vous êtes médecin et vous travaillez au Centre de médecine et d'anémie SS CEMAS. Hein, nous avons parlé avec vous de l'anémie SS. Merci d'être venu en studio répondre aux questions des auditeurs. À la prochaine.
Merci beaucoup, madame.